Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère au 88.4. Vous écoutez l'émission Écoforum, l'émission qui donne la parole aux actrices et aux acteurs engagés sur les questions de transition environnementale et solidaire de Marseille et sa région. Nous sommes le mercredi 28 juin 2023 et nous sommes en direct de 19h à 20h. Vous pourrez retrouver cette émission en rediffusion demain, jeudi 29 juin 2023, de 9h à 10h, ainsi qu'en podcast sur radiogalère.fr dans la rubrique Écoforum. Cette émission s'inscrit dans le cadre de la Forêt des Possibles qui est menée en partenariat avec l'Arbre des Imaginaires. La Forêt des Possibles, c'est un écosystème de refondation environnementale et solidaire. Autour des allégories de l'arbre et de la forêt, elle invite chacun d'entre nous, d'entre vous, à trouver sa juste place. L'arbre symbolise la place de chaque citoyenne et citoyen, du moi au nous, en enracinant nos aspirations et en faisant fructifier nos compétences, alors que la forêt représente la synergie collective du nous au tout, où les initiatives locales se connectent, se renforcent mutuellement et tracent l'horizon d'une société résiliente. Et c'est ce que nous présentons chaque semaine avec les émissions que nous enregistrons ici sur Radio Galère. Ainsi, la Forêt des Possibles transforme les aspirations individuelles en une force collective réconciliée avec les défis de notre temps. Et cette forêt a vocation à être essaimée et a pour premier territoire d'enracinement la ville de Marseille. Je suis Marin Moffret et accompagné ce soir par Gilliane qui est avec nous en studio.
Bonsoir.
Bonsoir Gilliane. Et par Chloé qui est en régie. Bonsoir Chloé.
Bonsoir.
Et ce soir, nous recevons Benoît Beaubry. Bonsoir Benoît.
Bonsoir à vous.
Benoît, tu étais un des 150 citoyens tirés au sort dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat. Convention citoyenne dont nous avons eu l'occasion de pouvoir discuter déjà il y a un petit mois avec Lucas Zufik, qui est un des rédacteurs d'une BD qui s'appelle « À portée de main ». Et ce soir, nous allons donc pouvoir continuer nos échanges à ce sujet. Et pour que vous puissiez vous projeter dans le plan que nous vous proposons, auditeurs et auditrices qui nous écoutez, voici un peu ce dont nous allons parler. D'abord, Benoît va se présenter avec son parcours, puis nous allons parler de la Convention citoyenne pour le climat et du groupe de travail dans lequel a travaillé Benoît, qui est celui de Consommer. Et enfin, nous parlerons de participation comme moyen d'encapacitation citoyenne, c'est-à-dire moyen de pouvoir se saisir des outils pour pouvoir être pleinement acteur de sa vie et de notre destin collectif. J'ai un peu trop parlé. Benoît, je te laisse tout de suite la parole pour te présenter.
Alors, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Je suis donc Benoît Beaubry. J'ai 55 ans. À l'époque du tirage au sort de la Convention citoyenne, je suis demandeur d'emploi. Je suis un habitant des quartiers nord de Marseille. J'habite le 15e arrondissement de Marseille. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir retrouvé un emploi. Je suis père de famille. Lors du tirage au sort, j'ai pas une sensibilité extrême sur le réchauffement climatique, sur l'environnement, sur le climat. Je sais ce que peut m'apporter la terre pour l'avoir travaillé étant jeune. Donc je connais la valeur de la terre, mais après j'ai pas une sensibilité particulière sur le réchauffement climatique. Je ne suis pas non plus intéressé par tout ce qui est politique, puisque je n'ai pas voté, je n'ai pas aux urnes. J'y crois pas. Et il y a ce fameux SMS qui est reçu.
Et donc, comment tu l'as accueilli? Tu t'es dit, qu'est-ce que c'est? C'est une blague ou quelle était ta réaction à ce moment-là?
Ouais, je me dis, tiens, c'est peut-être une boutade, une publicité encore, une de plus. Et à la question qui m'est posée par... Êtes-vous intéressé par le réchauffement climatique? Je réponds oui. On me demande ma situation sociale, mon lieu d'habitation. Je réponds à tout ça. Ça dure une semaine, 10 jours. Et puis je me dis, personne ne me répond à mes questions là. Donc je rappelle le numéro. On parle de cette convention citoyenne pour le climat. Je dis oui, pourquoi pas. Et 10 jours après, pareil, le lundi, on m'appelle en me disant, monsieur, est-ce que vous êtes prêt à monter à Paris vendredi.
Donc ça ressemble au début à une arnaque bien montée avec ils t'ont pris les coordonnées des cartes bancaires.
Non. Le problème se pose justement quand on me dit lundi, vendredi, est-ce que vous êtes prêt à monter à Paris? J'ai dit oui, je veux bien, mais à l'époque, je le rappelle, je suis demandeur d'emploi. Je fais comment? Et on me dit non, on s'occupe de tout, on vous envoie les billets de train et ainsi de suite.
Sachant qu'à l'époque, c'était dans la suite des Gilets jaunes, c'était une des principales propositions qui était sortie du grand débat. Est-ce que tu avais des attentes particulières ou est-ce que tu arrivais dans l'inconnu plus total ?
Non, j'arrivais dans l'inconnu plus total. Alors j'étais Gilet jaune, hein. J'ai crié sur les ronds-points, hein, toute la haine que j'avais. Et après, cette mise en place de la Convention citoyenne, donc elle vient de ces fameux Gilets jaunes. Mmh. Et on apprend de suite que, je me rends compte, moi, de suite, que cette taxe carbone, justement, qui a fait le conflit des Gilets jaunes, cette taxe carbone, très bonne initiative pour éviter le réchauffement climatique, pour la lutte contre le réchauffement climatique, mais par contre, très mauvaise au niveau social. C'est-à-dire que l'État a mis en place une de leurs lois, une de leurs solutions, sans savoir comment nous, on allait la subir.
Et alors ça, quand on préparait l'émission, tu me disais que c'était les deux pieds sur lesquels vous aviez à marcher avec la Convention citoyenne pour le climat, à savoir réduire de 40% les émissions de CO2 émises à l'échelle du territoire français et, dans le même temps, être juste en matière de propositions pour tenir compte des disparités du territoire et des intérêts de tout le monde, et y compris des plus vulnérables.
Oui, tout à fait. Ouais. Donc la lettre de mission qui nous est remise le premier week-end quand on arrive, là, c'est qui nous est remise par le Premier ministre, c'est Édouard Philippe à l'époque. Comment réduire de 40% les gaz à effet de serre d'ici 2030, tout en respectant une justice sociale. D'où le planel de tirer au sort, d'où le planel de gens participant à cette convention citoyenne, des chefs d'entreprise, des demandeurs d'emploi comme moi à l'époque, des femmes de ménage, des profs, et ainsi de suite, des gens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, des dom-tom. Et il y avait 8, ou si je dis pas de bêtises, 8 ou 10 mineurs.
D'accord. Et alors, ça part quand même d'une bonne intention au début. Et l'intention, en plus, vise à pouvoir s'inscrire ensuite dans les actes avec des promesses qui sont faites assez rapidement.
Ouais, c'est une bonne intention. Si on gratte un petit peu, c'est pas trop démocratique. Parce que, en fin de compte, on décide de mettre cette convention citoyenne en place suite à une réclamation de Marion Cotillard, qui égratigne un petit peu le président de la République. Et le président de la République la demande à la rencontrer. Elle va à sa rencontre avec Cyril Dion, le cinéaste. Et à partir de là, est mise en place là. Donc, on réagit par rapport à une demande unique, d'une personne unique, et on met ça en place. Donc, j'estime que ce n'est pas trop démocratique. Mais bon, c'est bien, ils l'ont fait.
Et alors, la suite, est-ce que tu peux... on en reviendra de ce qu'ils ont fait par la suite, etc., au cours de cette émission. Mais là, si on veut suivre chronologiquement ce qui s'est passé, est-ce que tu peux nous donner un peu le démarrage de cette cité, son cadre, on a déjà commencé à en parler, et puis je te poserai d'autres questions juste après.
Ouais. Donc on est reçu au CESE, Centre économique, social et environnemental. On arrive, on est reçu, on nous présente donc notre feuille de mission, et là, on nous met dans un hémicycle, et il y a des intervenants qui nous présentent la situation actuelle sur le climat. Donc, notamment Valérie Matin-Delmotte, je crois, ou le nom, c'est ça ?
Masson-Delmotte, oui.
Ouais, Masson-Delmotte, pardon. Notamment elle, qui est extraordinaire. Et quand on nous explique la situation dans laquelle on est, on se prend une gifle gigantesque. Tout le monde, on se prend une gifle. Et puis, on pense à nos proches, on pense à nos enfants, à nos petits-enfants. On dit demain, et demain, c'est très, très vite. Ça arrive très, très vite. Dit demain c'est chaud, demain c'est urgent, donc il faut faire quelque chose.
Alors, est-ce qu'il y avait quand même des représentants du gouvernement français qui étaient là ce jour-là ?
Oui, la ministre de l'écologie.
Ok.
Donc c'est, à l'époque, c'est Madame Le Borne. Ouais, c'est elle, ouais.
Aujourd'hui, Premier ministre, à l'heure où nous parlons, si jamais vous écoutez plus tard cette émission, elle est toujours Premier ministre française. Donc, vous avez cette présentation de l'état général de la catastrophe en cours et très largement à venir par rapport aux bouleversements environnementaux avec Valérie Masson-Delmotte. Valérie ?
Oui.
Voilà. Qui vous fait ce panel. Et ensuite, vous êtes mis dans différents groupes, c'est ça ?
Ouais, on est. Alors, tirage au sort encore. Il y a cinq groupes de travail qui sont consommer, produire et travailler, se loger, se déplacer et se nourrir. Donc, c'est 5 groupes de travail. On est tiré au sort. Et donc, on est 30 par groupe de travail. Hein. 30 fois 5, 150. Et moi, je me retrouve dans le groupe consommé. Certains, alors c'est marrant parce que certains, par exemple, qui travaillent dans le bâtiment, qui sont chefs d'entreprise dans le bâtiment, se disent « Ouais, je vais aller dans le groupe se loger, je vais pouvoir apporter ma technique. » Eh bien non, tu as été tiré au sort, tu vas dans le groupe se nourrir, tu restes dans le groupe se nourrir. Donc tout, et ça c'est important, ce tirage au sort, c'est que tout est tirage au sort.
Le but étant de pouvoir avoir un peu comme une représentation d'une carte instantanée de ce qui peut se penser à l'échelle de toute la société, mais de façon miniature.
Ouais, tout à fait.
Et donc toi, tu te retrouves dans le groupe consommé. Alors pour celles et ceux qui sont fidèles à nos émissions, on a déjà eu l'occasion de pouvoir présenter l'ensemble des propositions qui ont été proposées dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat avec Lucas Dufy, qui était notre invité, qui est l'auteur de la BD « À portée de main », qui est donc la BD qui synthétise les 430 pages et quelques du rapport dans une BD qui est bien plus digeste et dont on salue ici le travail. Mais là, on va rentrer un peu plus loin dans le groupe dans lequel tu as participé, parce qu'on n'avait pas eu le temps de rentrer dans les détails la fois d'avant. Et donc, rentrer un peu plus en détail sur ce qui se passe en matière de la consommation. Et je vais te commencer par une petite question sur... l'état des lieux, quels sont les principaux enjeux qui se posent à nous en matière de consommation en France ?
On s'est rendu compte que notre consommation avait un fort impact sur l'environnement et qu'il fallait absolument changer les comportements de consommation. Alors, moins consommer de ressources naturelles, moins consommer d'énergie, moins générer d'émissions de gaz à effet de serre, et pour produire aussi moins de déchets, parce que plus on va consommer, plus on va produire du déchet. Donc pour nous, l'impact du groupe consommé, au départ, c'est surtout ça. C'est on consomme plus ou moins bien, hein, mais notre consommation, notre surconsommation aussi, elle produit énormément de déchets. Et on sait l'effet destructif que a les déchets. Donc on s'est dit, comment générer, comment régler tout ça, ces déchets.
Sachant que, alors là j'apporte plus une réflexion qu'une question, la question de la consommation, c'est globalement tout ce qui concerne l'économie politique depuis le début du 19e siècle. Quoi. Le début du capital de Karl Marx commence avec la marchandise. Et ensuite, on marchandise comme premier sujet de réflexion. Et ensuite, expliquer quels sont tous les rapports qui se mettent en place en matière d'utilisation de main-d'œuvre, d'exploitation de la main-d'œuvre par certaines personnes. Et donc, comment est-ce que vous arrivez à faire des propositions et avoir un questionnement sur un sujet qui est aussi vaste que celui de la consommation ? Avec, à l'arrivée, l'idée de se dire qu'il faut qu'on produise 5, 6 mesures concrètes. Comment ça se passe ?
Bon, on reçoit des intervenants qui nous sont proposés au départ, hein, mais certains qu'on demande, Amazon, ils ne sont jamais venus, je ne sais pas pourquoi. Ils n'ont pas voulu se présenter, ils ont eu peur, peut-être.
Étonnant.
Donc vous pouvez solliciter qui vous voulez ?
Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Donc on demande différents intervenants. Alors, comme on échangeait tout à l'heure, hein, pour moi, le plus important, ça a été Emmanuel Faber de Danone. Voilà. Et après, on échange au fur et à mesure. Donc, on se dit, c'est surtout la thématique consommée. On est là, je vais consommer un produit. Quels sont les leviers sur lesquels je vais pouvoir appuyer ? Il y a donc mon mode de consommation, où je vais aller chercher mon produit. Il y a le type de produit que je vais acheter. Et après, il y a pourquoi je me dirige vers ce produit. Donc l'information, la publicité, la formation et l'affichage du produit. Donc c'est à peu près cinq grandes thématiques où on va se baser dessus vers où on va partir. Donc c'est créer une obligation d'affichage par rapport à l'impact. C'est réguler la publicité pour réduire les incitations à la surconsommation. C'est limiter le suremballage et l'utilisation du plastique à usage unique en développant le vrac et les consignes dans des lieux de distribution. C'est encourager la sobriété numérique afin de réduire les impacts environnementaux. C'est faire de l'éducation, de la formation, de la sensibilisation des leviers d'action de la consommation responsable. Et c'est assurer une meilleure politique publique environnementale et les évaluer pour les rendre plus efficaces. Aujourd'hui, il y a des lois qui sont mises en place qui sont plus ou moins respectées.
Et je me pose la question, donc comment est-ce que vous êtes arrivé à ces mesures-là? Est-ce que ce sont des experts qui vous ont accompagné, qui vous ont aidé, conseillé? Ou bien, même, j'imagine que dès le départ, vous ne partagez pas forcément tous le même constat sur la consommation, donc vous avez été briefé, on vous a expliqué. Mais ensuite, comment vous accouchez de ces mesures-là qui sont pertinentes? Mais...
C'est... Il y a le... Je me rappelle, moi, dans le groupe Consommer, il y avait un petit papy de la Creuse hein, qui me dit « Ouais, faut mettre du vrac ». Je dis hop, je t'arrête. Je dis, moi, quand je rentre dans ma supérette, je ne peux pas acheter le vrac. J'achète ce que j'ai comme argent dans ma poche. Donc, ah ouais, ça, c'est pas possible. Donc, on réfléchit à autre chose et on trouve une solution idoine pour tout le monde. Et on va vers ça.
Donc, c'est vraiment le fruit de l'intelligence collective et du groupe qui fait les mesures ont surgi.
Tout à fait.
Dans vos réflexions. D'accord. Ouais.
Sachant que vous discutiez également avec des personnes qui vous apportaient les informations dont vous aviez besoin, quand vous disiez là, un peu comme la question à un ami.
Ouais. Mais, tu as ces interventions, mais moi, étant réticent envers le monde, pas le monde extérieur, mais envers ce sachant, j'ai cherché l'information moi. C'est-à-dire qu'on va passer... On va passer 9 week-ends ensemble. Mais quand tu rentres à la maison,
Tu continues.
Tu vas gratter, tu vas chercher. Je sais que j'ai rencontré des gens sur Marseille qui m'ont apporté énormément d'informations. Et après, tu vas chercher de l'appui extérieur et de l'appui en qui tu es sûr d'avoir confiance. Et on le verra après sur la réforme du CESE où j'ai eu l'appui de quelqu'un de formidable.
C'est sûr que ça. Ce que je trouve fou, c'est quand tu dis que tu discutes entre vous et tu te dis bah non, c'est pas possible, le vrac, parce que j'ai pas dans les moyens dans ma poche. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment ce côté palpable des enjeux du quotidien, quoi.
On se mettait tous à. Aujourd'hui, on prend telle décision. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est gênant pour toi? Est-ce que ça te met trop de contraintes? Moi, faire du vrac à tel tarif, oui, ça va me mettre trop de contraintes. Acheter tel type de produit pour tel motif, oui, ça va me mettre des contraintes. Donc, on faisait très attention à ça et on essayait de trouver la solution, le juste milieu. Mais tout en sachant qu'on faisait des efforts, que la population française, que les citoyens et citoyennes françaises se devaient de faire certains efforts. Mais les plus gros efforts, elles étaient pas à notre niveau. C'est au-dessus que les plus gros efforts devaient être faits.
Au niveau politique et industriel.
Tout à fait.
Ça, je trouve que ce qui est assez fort, c'est que donc ça se sent dans les propositions, que c'est absolument palpable, que vous avez essayé de prendre en compte les intérêts de chaque citoyen, chaque citoyenne en fonction de là où il est. Et comme tu viens de le dire, parfois les échelles sont au-dessus. Et il y en a une. Alors là, c'est pas dans le groupe consommer. C'est dans le groupe Se Nourrir, qui est, donc la proposition est rendre les négociations tripartites plus transparentes et plus justes pour les agriculteurs. C'est une parmi d'autres. Il y en a d'autres sur le fait de la France doit porter une politique de réforme de la PAC, donc la politique agricole commune, ambitieuse pour réformer l'agriculture au niveau européen. Et où là, on se dit, donc tous les citoyens sont d'accord parce qu'ils se rendent bien compte que c'est absurde, et en même temps, les leviers se trouvent au-dessus. Et... avec toutes les limites que ça peut avoir ensuite quand il s'agit de proposer votre rapport et que tout le système économico-politique actuel se dise « qu'est-ce qu'on fait avec ça ?» Et comme tu le disais en préparant l'émission, il peut y avoir des réticences de lobbying qui sont très fortes en disant « oula, mais ça, on ne peut pas mettre en place avec le système économique actuel ce que vous êtes en train de proposer. »
Ouais, mais est-ce qu'en passant sur cette transition, en mettant en place ces mesures, est-ce qu'on ne peut pas créer un autre lobbying, un autre système économique? Et j'ai du mal à croire qu'avec l'intelligence qu'ont ces gens-là, ils ne mettent pas ça en place. Quand on connaît l'urgence climatique, et ils la connaissent, il y a 40 ans de ça, il y a un président de la République qui l'a dit, Jacques Chirac, il dit « la maison brûle, on regarde à côté et personne ne fait rien depuis ». Non, ce n'est pas possible. Donc quand on connaît cette urgence climatique, que là, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas, ouais, on va faire telle loi pour faire tel choix ou tel choix. Non, le climat va décider que c'est la fin. Donc, faisons l'effort maintenant, passons vers une transition écologique, mettons en place un système économique qui bénéficie de ça, peut-être. Le lobbying, on ne peut pas lutter contre. Tout est lobbying, on ne peut pas lutter contre. Mais cadrons-le et avançons et faisons en sorte de... que ce ne soit pas la fin dans 50, 100 ans.
Mais il y a une campagne d'affichage en ce moment. Je ne sais pas quel est le groupe qui le fait, mais qui dit « si ce n'est pas toi, qui ?» et « si ce n'est pas maintenant, quand ?» Effectivement, là, ce qui est frappant dans ton témoignage, c'est que tu dis quand même qu'avant la Convention citoyenne pour le climat, tu étais conscient un peu mettre la main dans la terre, etc. Mais ce n'était pas tes priorités absolues. Alors que là, à t'entendre, ça semble évident. Et en fait, c'est évident à toute personne qui a vraiment pris le temps de se poser ces questions-là et de se dire « mais l'urgence est absolument palpable
ouais, ». Quand le sachant te permet de savoir, tu es légitime pour avoir une réflexion. Donc si sur un sujet comme ça, tellement important, si t'es pas réaliste, c'est que t'es fou. Bah je sais pas où c'est, mais c'est pour ça que avant je savais pas. Aujourd'hui, une des phrases, j'ai à la fin de la convention quand on rencontre le président de la République, je lui dis merci, mais je referai pas parce que vous m'avez permis de savoir. Et c'est vous qui avez le destin de mes enfants et de mes petits-enfants entre vos mains. Et de la manière dont vous vous comportez, je n'aurais pas voulu savoir.
Alors justement, est-ce que tu peux nous dire quelle a été la suite du processus de cette Convention citoyenne pour le climat? Une fois que vous arrivez, vous avez une proposition et...
Donc, on a nos propositions, on les travaille en groupe de travail. Donc, dans nos 5 différents groupes. Après, une fois que au bout de 3-4 week-ends, je ne sais plus exactement, une fois que nos propositions deviennent concrètes dans les groupes de travail, on les présente aux autres groupes de travail. Là-dessus, ces autres groupes de travail font des amendements. On vote les amendements s'ils sont légitimes ou pas. Et après, à la fin, à la dernière session, on vote pour savoir si la mesure est bonne ou pas. Donc, la mesure est travaillée, elle est proposée aux autres groupes de travail, les amendements, une mesure qui ressorte claire, nette, et à la fin, on vote, on la remet au président de la République, on la remet à l'État, oui ou non. Oui, et c'est pour ça que quand on regarde la Bible des mesures, la majeure partie des mesures sont votées à plus de 90%.
Parce qu'à chaque fois que vous présentez une mesure aux autres groupes, il y a un travail de vulgarisation qui est fait.
Ouais. C'est-à-dire que nous on les regarde. Est-ce que peut-être que des points techniques ou de mise en place ne correspondent pas à certains, ou certains se posent la question, mais pourquoi, en fin de compte, c'est pourquoi vous en êtes arrivé là? Voilà. Est-ce que il n'y a pas une meilleure solution et tout? Non, on ne peut pas. Oui, on peut. Et voilà.
Alors, est-ce que toi, tu étais convaincu par la totalité du rapport?
Pratiquement, oui.
Et est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas dans le rapport où tu penses que ça aurait pu aller plus loin?
Je pense qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin. Et après, je pense que... Alors, il y en a une qui n'est pas dans le rapport, c'est la semaine des 4 jours de travail. Voilà. Mais...
Pour éviter que ça soit trop de gauche, apparemment. C'était ça, la raison?
Non, puisque c'est nous qui la refusons, c'est là.
Vous avez peur, ce qui est écrit dans la BD, c'est que Le collectif des 150 se dit que si jamais il propose parmi les 150 mesures le fait de passer à 4 heures parce que ça permettra de facto un moins de temps de travail, donc moins de production et aussi une capacité d'achat qui sera un peu réduite, ce qui fera qu'on va réduire la voilure. Mais il y avait un risque que ça soit perçu par l'opinion publique comme étant une mesure de gauche. Alors, et donc que ça vienne cliver le...
Alors je vais m'engager là-dessus.
Vas-y, on t'écoute.
Je vais m'engager là-dessus. On est le dernier week-end en train de faire le vote. On est le vendredi. On commence par certaines mesures. L'une des mesures qui pique un petit peu, c'est le 110 km/h. Est-ce qu'on reste sur le 110 km/h sur autoroute? Ou est-ce qu'on met 120 comme nos amis portugais, espagnols, tout ça? On reste sur le 110 km/h, il y a le vote, elle passe à 70, 80 à peu près. Bref. On rentre à l'hôtel. Comme tous les soirs, on échange entre nous, on refait le monde, on regarde l'information. Et les médias n'affichent qu'une chose. Fin de la convention citoyenne, les bobos, ils veulent passer à 110, ils veulent faire une semaine à 4 jours de travail. Bah, les gens ne vont pas comprendre. Ils vont nous prendre pour des bobos. Alors que cette mesure...
Quand tu dis les bobos, c'est qui? Ils visent vous, là? C'est vous quand on pense comme ça?
Ouais. Les bobos, on a été les amiches aussi à une époque pour le président de la République. Bon. Alors que cette mesure, elle est travaillée comme les autres. Donc, elle se doit de passer au vote, à la fin, à plus de 90%. Puisqu'il y a eu le même travail, il y a eu le même concept de travail dessus. La présentation de la mesure, les amendements par les autres groupes, et après, au vote. Et donc, le samedi, on revient, on continue les votes des différentes mesures proposées, et elles ne passent pas.
Parce que vous avez peur que ça ne soit pas accepté. Ou que ça soit injustement critiqué par les gens qui s'en saisissent pour dénaturer le travail et essayer de réduire sa légitimité.
Ou peut-être qu'on n'a pas eu la bonne information. Le message qu'on te fait passer par les médias, bah c'était peut-être pas le bon.
Sachant que, est-ce que, au moment où vous prenez cette décision, c'est un moment où vous pensez encore que le travail que vous êtes en train de fournir est un travail qui va être ou bien proposé à référendum, ou bien proposé directement et sans filtre au Parlement pour que ça soit voté?
C'était surtout, on allait sur le sans filtre au Parlement.
Et donc ça veut dire qu'à ce moment-là, vous dites que ce que vous êtes en train de proposer est un projet structurant pour refondre l'économie française. Et au-delà de l'économie, toute l'architecture de la société.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Et finalement, ce n'est pas ce qui s'est vraiment passé.
Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Parce que direct, quand on arrive à l'Élysée, qu'on remet nos mesures, direct, on nous impose 3 jokers. Alors qu'au départ, comme tu l'as dit, on part sans filtre. Il y a le joker sur la... réécriture de la Constitution. Il y a le joker sur le 110 km/h. Alors on nous dit que c'est pour vous protéger. Et il y a le joker sur la taxation de 4% sur les dividendes. Et ça, il ne faut pas toucher. Il ne faut pas toucher au porte-monnaie.
Porte-monnaie de certaines personnes.
De certains. Il faut que je le dise moi ou...
Non. On peut continuer l'échange.
On a compris. Hein.
Mais... comment est-ce que tu expliques dans ces cas-là que malgré en plus les 3 jokers, à l'arrivée, la loi climat et résilience qui porte un nom qui se veut quand même assez emballant et qui est en fait le fruit du travail parlementaire qui a été issu de cette proposition initiale de la Convention citoyenne pour le climat, ne reprenne que moins de 20% de ce qui se trouvait dans le rapport?
C'est un manque de courage, c'est du lobbying. Mais c'est des grosses pressions par les industriels. Mais c'est surtout un manque de courage, quoi.
Mais surtout que c'est pas... À un moment, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe de... je prends l'engagement formel que ça soit sans filtre à des tricotages absolument massifs.
Je pense que... Ils n'étaient pas conscients de l'ampleur jusqu'où on pouvait aller. Et comme le dit Elisabeth Borne... à la fin de quand on remet les mesures, ils ont été plus loin et plus vite. Après, il y a un truc très important aussi que j'ai retenu, c'est que en amont de la convention citoyenne, quand on est tiré au sort, les militants disent qui sont ces gens-là qui vont répondre à cette question, ce qui est tout à fait louable, puisque j'avais aucune connaissance sur le réchauffement climatique. Les élus disent qui sont ces gens-là qui vont faire des propositions de loi alors que nous, on est élus par le peuple. À la fin de la Convention citoyenne, quand on remet notre travail, ces mêmes gens disent bravo.
Donc, surtout les premiers, peut-être que les deuxièmes sont un peu plus... Enfin, je veux dire, les premiers, les militants disent bravo et s'en saisissent d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de légitimé dans l'espace public.
Certains élus aussi, je pense qu'ils... Certains élus aussi, ouais. Certains, pas partis, mais certains élus s'en saisissent aussi, c'est dur de dire ça, et sont prêts à les mettre en place, à faire l'effort de les mettre en place. Alors, c'est des élus, c'est des paroles, on attend des actes.
Mais en revanche, les membres du gouvernement étaient surpris par la qualité des mesures et jusque là où vous êtes arrivés. Et donc, on essaie de trouver une parade pour ne pas tous les adopter ou...
Alors, on a pu comprendre, puisque après, on a participé justement pour la. Ils nous ont invités quand ils ont créé cette fameuse loi sur le climat. Et ils voulaient savoir justement quel chemin on avait pris pour arriver à ces mesures. Donc des fois, on a pu comprendre que la mise en place était difficile parce que ça touchait l'Europe et ainsi de suite. Donc ça, on peut le comprendre. Mais des mesures simples et structurées qui rentraient dans le cadre légal, ben, je ne comprends pas pourquoi tu le mets en place. On prend l'exemple, par exemple, du groupe Se Déplacer sur les taxes sur les SUV. Nous, on parle de 1800 kilos. Alors, on peut dire non. Donc, ça touchait un gros planel du parc automobile français. Allez bien votre proposition. Mais juste à la place de 1800, on met 1200 ou 1300 kilos. Et là, on ne touche plus rien. Ça, c'est, excusez-moi l'expression, c'est pisser dans un violon.
C'est comme celle sur les avions. Où on
tout
dit,
à fait.
Si jamais, il faut que ça soit moins de 2 heures, mais que... Enfin bref, je te laisse l'expliquer, mais à l'arrivée, ça touche quasiment aucun vol intérieur.
Ça touche rien. Ça touche, je crois que ça touchait 6 lignes. Et aujourd'hui, ils te créent même une ligne supplémentaire Paris-Brest. Donc...
Tout ça n'est pas très réjouissant, mais on va quand même, en deuxième partie d'émission, prendre le temps de se redonner de l'énergie parce que tout n'est pas perdu de cette convention, et notamment dans tous les outils de méthodologie qui ont été proposés, mis en place, expérimentés et qui maintenant sont reproduits en matière d'empouvoirment citoyen. Mais on va faire une petite pause musicale, Benoît. Je te laisse nous dire ce que tu as décidé de nous faire écouter ce soir.
Kenny Arcana, Tout tourne autour du soleil.
On se retrouve juste après la pause avec Benoît Beaubry, membre de la Convention citoyenne pour le climat. A tout de suite.
Jamais squatter la routine et le manque de vie qui se tasse à cadeau, à arrache, allez hop, je me casse et je vais pas passer ma vie prisonnière de la leur qui t'a galéré ici, je m'en vais galérer ailleurs. Tcha tcha où les éduques, je me barre, vous pouvez appeler les flics, fermer la porte, passer par la fenêtre, c'est clair. J'ai ma liberté qui m'attend juste devant, je vais pas la faire patienter, 1, 2, 3, tcha tout le monde, allez pas le temps, bon blabla, je suis toujours la seule à partir. Putain, aucun de mes potes n'a jamais été de la partie, là où le système en sorcelle, à coup de vibes sorties, pour moi un enclos est fait pour essayer d'en sortir, alors je me barre. Besoin d'aller respirer autre part. Ici on veut me dresser, me faire avancer ou pas. Moi j'ai besoin de liberté, de vibrer dans son aura. Les flics au cul, je les entends dire la petite en aura. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer autre part. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. À chacune de mes courses, dans les bras de la liberté, un tas de contrôleurs à mes trousses, portés par le vent. Allez dire aux uniformes sur les nerfs qu'ils ne m'attraperont même pas en rêve. Même nuit dehors, réveillé par un frisson, un éveil, même quand je dors connecté à mon intuition, j'ai rien à craindre. Percé par le champ de la lune, la chance dans les mains, libre, enfant de la rue. Loin du monde des adultes, illogiques et rigides, fugitifs de leur enclos, n'a qu'un flic et vigile. Fuck, c'est peut-être con, mais c'est ainsi. J'insiste, vos lois sont immorales, ma délinquance a des principes, alors laissez-moi en paix. Vous pouvez toujours attendre si vous voulez voir en paix. Plutôt une balle dans la tempe, enivrée. Où mon cœur me porte, je m'en irai. moi je suis faite pour vivre entre les mailles de vos filets. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer au port. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer au port. Libre, ça me suffit, c'est impec. Moi je suis bien quand j'ai rien. Car pour être libre, faut avoir rien à perdre. Ma liberté a rendu vers les hommes en bleu. Cage d'escalier comme l'eau, j'y change de maison quand je veux. Change de ville quand je veux. Élu sans domicile, je vagabonde les yeux ouverts. L'enfant des rues est en visite, me méfiant de l'adulte comme de la peste. Car l'adulte est une balance, un collabo, un traître. Croisant mon expérience, sous pression, car ma juge est en colère. Laissez-moi vivre, de toute façon j'ai plus le droit d'aller au collège. Alors merde, aujourd'hui j'ai 14 piges. Fixe depuis un bout de temps, j'ai pris de la bouteille et j'ai besoin de personne. La vie m'éduque et la vadrouille m'ouvre l'esprit. Les rencontres m'apprennent bien plus que leurs profs. Bref, c'est l'école de la vie, à l'air libre, là où le ciel est le toit, entre ciment et belle étoile.
Vous êtes de retour sur Radio Galère au 88.4 dans l'émission Écoforum qui donne la parole aux acteurs et aux actrices des transitions environnementales et solidaires de Marseille et sa région en partenariat avec le projet de Forêt des Possibles qui se fait avec l'Arbre des Imaginaires. Nous sommes toujours avec Benoît Bobry qui est un des 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat. En première partie d'émission, Benoît nous a présenté ce qu'il faisait avant qu'il intègre le groupe des 150 citoyens. Il nous a présenté un petit peu son parcours, puis on a pu discuter sur ce qu'était cette Convention citoyenne pour le climat, quelles avaient été ses intentions, dans quel groupe de travail tu avais participé avec le groupe Consommé, et ensuite quel a été, on va dire, son cheminement dans le circuit administrativo-politique et puis aussi très économique au passage avec tous les lobbies qui sont venus d'une certaine façon détricoter un certain nombre de mesures qui avaient été proposées. Et donc on était resté sur ce niveau d'énergie où on se dit tout ça pour ça. Mais on va se donner un peu plus d'énergie et d'espoir dans cette deuxième partie d'émission en parlant d'encapacitation citoyenne et donc d'apprentissage en matière de faculté pour les citoyens et citoyennes de se saisir de leur destin lorsque les sachants leur permettent de savoir, pour reprendre ton expression, Benoît. Qu'est-ce que tu as à dire un peu sur cette expérience, sur la façon que ça a pu vous permettre à chacun, chacune de ce groupe de monter, de mettre le pied à l'étrier?
Avant, comme je te disais en préambule, c'est que avant, je suis un habitant des quartiers nord de Marseille. Aujourd'hui, je suis citoyen marseillais. C'est-à-dire que tu retrouves une légitimité en faisant ce travail. Et en fin de compte, c'est le sachant te permet de savoir, tu deviens légitime, qui que tu sois, pour avoir une réflexion, pour donner un avis. Après, avec la diversité des personnages, entre guillemets, des 150, t'arrives sur un avis commun et t'arrives sur une réflexion unique. J'aime prendre un exemple, c'est que l'Assemblée nationale, une majeure partie d'hommes d'un certain âge, en costume cravate, donc d'un certain niveau social, on sort une idée commune, en généralement la même. La photo des 150 citoyens, une mixité entre les hommes et les femmes, des gens de 30 ans, 20 ans, des gens de 70, 80 ans, des gens en costume cravate, des gens en survêtement, et ainsi de suite. Une diversité telle que la réflexion n'est qu'enrichissante.
Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces 150? Est-ce que chacun est parti un peu prêcher la bonne parole, d'une certaine façon?
On va dire ça comme ça. Il y a une association qui a été créée, les 150, et... Alors certains ont lâché parce qu'il y a la déception, en général pour tous, et certains n'ont pas la force de combattre. Mais on est quand même toujours actifs. Dernièrement, on a sauvé, entre guillemets, sauvé. Il y a des arbres qui allaient être abattus dans une école du côté de Laval, Et ben notre petit réseau, notre petite communauté, on s'est mis en lien pour justement lutter contre l'arrachage de ces arbres, et c'est en bonne voie.
Puis tu disais, lors de cet intermède musical, que tu disais, moi je devrais être plus militant, mais j'ai pas la force. Et puis ensuite t'enchaînes en disant, et puis en fait j'interviens beaucoup dans les écoles et avec le groupe des philosophes marseillais. Et t'es encore là ce soir avec nous à la radio, alors que tu pourrais faire autre chose. Donc peut-être même que tu t'estimes pas à la hauteur de ce que tu pourrais être en matière de militantisme, alors que tu en fais déjà beaucoup.
Ouais, je pense. Moi, pour moi, le plus important à mon échelle, c'est transmettre un message. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. J'adore les prévenir, parce qu'on peut anticiper. Alors peut-être que les élus aussi pourraient anticiper sur certaines choses. Donc comme je vois qu'eux, ils ne le font pas, bah, j'essaye de le faire moi en transmettant mon message.
Et est-ce qu'à l'échelle individuelle aussi, auprès de tes proches, de tes amis, de ta famille, tu as fait passer le message et donc ça a eu un impact sur ton mode de vie?
Ah oui, tout à fait.
Ouais.
Ouais, c'est, au départ, quand tu rentres de la convention, que tu leur présentes tout ça, c'est ouais, « papa, tu deviens un peu lourd ». Et en fin de compte, non, ils commencent à comprendre. Et puis, j'ai une relation énorme avec ma petite fille. Et avec elle, c'est... Tous les jours, je vous raconte la petite histoire. Je lui ai créé une boîte mail. Je lui donnerai le mot de passe de sa boîte mail à ses 18 ans. Et tous les jours, je lui envoie des messages. Je lui explique le pourquoi du comment.
Oh, c'est beau, ça.
Wow. Alors, au niveau de l'impact environnemental, c'est pas terrible parce que les mails sont pas gérés. Mais après, au niveau de la mémoire, au niveau du sachant qui transmet le savoir.
Mais alors justement, sur ces questions-là, comment est-ce que tu fais pour transmettre? Parce que franchement, c'est une question qui est complètement systémique. On peut avoir l'impression que c'est lointain. Attendez, moi, les 7 limites planétaires sur 9 qui sont dépassées, c'est pas pour moi. Des personnes qui vont avoir des a priori en se disant ma voiture, les graines et baisser le chauffage, je peux pas. Alors qu'en réalité, l'écologie populaire, dans son approche intégrale, tête, corps, cœur, individu, collectif, système, elle est absolument palpable dans ce qui respire de nos vies, quoi. Qu'on soit convaincu, pas convaincu, on est tous concernés par les questions d'approvisionnement en matières premières, on est tous concernés par ce qui concerne l'énergie, le chauffage, par l'eau, par ce qu'on mange, par ce qu'on respire, par la trajectoire du système monde dans lequel nous vivons. Comment est-ce que tu arrives à transmettre des choses aussi complexes aux personnes qui sont autour de toi et qui peut-être sont à des années-lumière d'avoir ces enjeux-là en termes de priorité dans leur vie quotidienne?
C'est des gestes simples du quotidien que j'essaye de les faire comprendre, leur dire pourquoi je les fais et vers où je vais aller. Et après, eux, ils m'expliquent, oui, je peux le faire. Donc fais-le maintenant. Tu me dis que tu peux le faire, fais-le. Après, non, je ne peux pas le faire parce que j'ai telle contrainte et ainsi de suite. Et bien attends, on essaye de trouver autre chose. Si tu n'arrives pas à faire ce geste, eh bien, on essaye de trouver autre chose.
Il y a la question du geste individuel, et puis après, il y a des choses qui se jouent à des échelles qui sont supérieures et où on peut aussi se dire, oui, non, mais regardez, les Chinois, les Américains...
Même dans mon travail, j'essaye de faire... je travaille dans le milieu de la sécurité privée. Je donne du textile à mes agents pour travailler. Quand ils me restituent ce textile, avant, on me dit, ouais, tu l'emmènes ou tu le jettes ou... Non, là, j'essaye de trouver la solution pour le redistribuer derrière. Donc, tout ça, au quotidien, dans ma vie de tous les jours, j'essaye de trouver la solution.
Et est-ce qu'il y a, ça, je parle un peu en mon nom, je parle progressivement, j'arrête de parler d'impact pour aller de plus en plus vers la notion d'adaptation. Parce que je la trouve plus palpable pour nos vies, de se dire, en réalité, on n'en a rien à faire de ce qui se passe du côté des Chinois, des Américains. Enfin, si, on en a quelque chose à faire. Mais, en l'occurrence, si on ne s'adapte pas chez nous, on va en souffrir. On n'aura peut-être pas d'eau, on n'aura peut-être pas d'approvisionnement, on sera complètement à la rue, quoi.
Ouais, mais au bout, si toi, tu t'adaptes et ton voisin ne s'adapte pas, tu vas subir l'impact que lui va avoir.
L'adaptation collective, en tout cas. L'adaptation d'un territoire.
Ouais, mais, ouais, est-ce que... Non, je pense que l'impact, il va arriver. L'impact, il sera plus fort que l'adaptation. À un moment donné, tu ne pourras plus. Tu ne pourras plus t'adapter. Alors oui, faire ça, s'adapter, c'est déjà faire un premier pas, un premier effort. et ça pourra te permettre beaucoup plus. Mais faut le dire.
Enfin, s'adapter dans une démarche bas carbone. Hein.
Ouais, ouais.
Qu'on soit d'accord. Hein. Qu'on essaie de faire un peu les deux en même temps.
Mais je pense que pour éviter l'impact qui est là, quoi, c'est pas tellement à nous de nous adapter. Nous, on l'a prouvé par les mesures qui sont présentées que le citoyen et citoyenne est prêt à s'adapter. Là, c'est pas à nous de s'adapter. C'est à l'État de faire en sorte de s'adapter et d'aider les gens à passer à cette transition.
Sachant que pour l'instant, sans vouloir rentrer dans des démarches qui soient à vouloir absolument donner des avis tranchés, la direction d'ensemble est considérée par Guterres, qui est à la tête de l'ONU, comme étant pitoyable, pour reprendre son terme. Je ne fais que citer le secrétaire général de l'ONU. Comme ça, je me cache derrière son opinion pour pouvoir distiller la mienne aussi. Qu'est-ce qu'on fait en tant que citoyen ? Et est-ce que on a quand même vu que les conventions citoyennes pour le climat et ensuite les autres conventions citoyennes qui sont arrivées par la suite ont permis d'encapaciter, alors ça vient du mot anglais « empowerment », des citoyens pour se saisir de leur destin. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, de l'Assemblée citoyenne du futur qui est en train de débuter à Marseille et qui vise à reproduire à l'échelle locale l'initiative qui a été portée par la Convention citoyenne du climat pour Marseille, mais la CC c'était pour l'échelle de la France, et l'Assemblée citoyenne du futur, c'est pour Marseille.
Alors, la CCC, donc la Convention citoyenne pour le climat, très bel outil, la déception de la mise en place, pour X raisons, réalisable, pas réalisable. Là, on est plus au niveau local, et un peu partout en France, il y a des conventions citoyennes qui sont mises en place. C'est plus facile à l'échelon régional, municipal, parce qu'on connaît les contraintes et on connaît plus facilement les leviers pour la mise en place. Donc c'est plus facile de la mise en place. La seule réussite de ces conventions, c'est au départ, on met ça en place. Automatiquement, ça doit être sans filtre, puisque c'est un choix, quoi. Et donc, c'est la mise en place des mesures qui sont proposées. Parce que si, quand on encadre, durant la convention, on est encadré par des juristes et ainsi de suite, donc on sait que ce qu'on propose, c'est réalisable. Donc, au niveau local, la réussite d'une convention citoyenne, c'est la mise en place des propositions. Tu ne peux pas te permettre de venir nous chercher comme on est venu nous chercher à nous, de nous faire travailler pendant 9 mois et de nous dire, messieurs, merci, au revoir.
Mais il y a un vrai effet de risque boomerang, en fait, par rapport à la participation citoyenne dans ce qu'on appelle la démocratie participative. C'est que si on invite les citoyens à participer à de la co-construction de politiques publiques et que derrière le système traditionnel politique ne se saisit pas de ce qui a été proposé par les citoyens, dont on est allé chercher les avis et dont on a demandé de travailler pour mettre en place quelque chose, derrière c'est double effet, c'est-à-dire un, ça se met pas en place, et deux, les citoyens et citoyennes qui ont participé diront, écoutez, vous êtes gentils, vous m'avez demandé de travailler, vous le faites pas, merci, au revoir, et moi j'ai plus confiance en vous, quoi.
Ah oui, c'est ça qui est horrible. C'est ce que je disais et que la plupart disaient. De toute façon, quand tu regardes la note donnée par les 150 sur le projet de loi climat et résilience, elle est horrible. Parce que vous êtes servi de nous, quoi. Vous nous avez pris pour des hommes sandwich. Vous avez cru qu'on allait être deux hommes sandwich, qu'on allait faire votre apologie, votre publicité.
Est-ce que tu penses que c'est qu'ils t'ont pris comme ça ou qu'en réalité ils étaient eux-mêmes pieds et mains liés ?
Ils ont été piégés. Ils ne pensaient pas qu'on allait aller aussi loin.
Mais pieds et mains liés aussi par d'autres intérêts. Avant l'émission, tu nous parlais de Nestlé qui disait « si jamais vous mettez en place ce qui est en train de se faire, nous on licencie en masse en France ».
Oui, ouais, ouais, mais tout à fait. Ouais. Aussi bien pour, on le voit, on parlait tout à l'heure, on parlait de la mesure sur le poids des SUV. Je suis sûr et certain qu'il y a eu des pressions énormes de tout ce monde économique sur les politiques.
Mais alors, est-ce que tu penses qu'à l'échelle locale, là, j'espère que s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui font partie du conseil municipal marseillais, qui sont à la métropole ou à la région, qu'ils aient bien conscience que cette Assemblée citoyenne du futur n'est pas qu'un petit gadget qui est là pour amuser la galerie, mais qu'à partir du moment où on se lance dans cette proposition de démocratie participative et ouverte, il faut aller jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a des garanties avec des engagements politiques derrière de se dire on va récupérer ce qui sera proposé et on les mettra en œuvre?
Je ne sais pas exactement s'il y a des garanties sur la convention du futur marseillais, mais j'espère et je pense et j'y crois que les élus qu'on a aujourd'hui à la ville de Marseille respecteront ça. Sinon, ça sera aux militants, aux divers partis qui se battent pour leur dire qu'ils ont pris un engagement.
Oui, en fait, il ne faudrait pas que les conventions locales deviennent un simple outil pour que les citoyens expriment leur mécontentement et puis à côté, on continue comme si de rien n'était. C'est bon, ils ont participé.
Tout à fait.
Et il faut arriver à mettre en œuvre vraiment ces politiques-là, quitte à être un petit peu moins ambitieux peut-être.
Après, tu peux comprendre, tu as les gens qui t'encadrent. Si tu mets tous les outils en place au départ dans ces conventions, c'est-à-dire l'outil de justice, l'outil de loi, l'outil de respect de toutes ces règles, quand tu mets ce cadre, ce que tu proposes à la fin est envisageable. Puisque dès le départ, durant la convention, on te dit, hop, attention, ça, tu ne peux pas le faire. Parce qu'au niveau de la loi, tu ne peux pas, ou ça a un impact sur l'Europe et on ne pourra pas bouger ces textes et tout. Donc, si tu as ce cadre durant cette convention, à la fin, ce qui sort fonctionne. Et pour et puis même le citoyen lui-même qui est dans cette convention, un exemple, on parlait de la réforme du CESE, j'ai été chercher de l'aide extérieure à la convention d'un étudiant juriste quand je faisais mes mesures, quand je proposais mes mesures pour savoir est-ce que ça c'est réalisable, oui ou non. Donc c'est possible. Donc la résultante des conventions citoyennes, les résultats des conventions citoyennes doivent être pris en compte.
Puis est-ce qu'il ne faudrait pas, peut-être faire la convention des lobbyistes pour le climat, comme ça si on arrive à convaincre les lobbyistes, comme vous êtes devenus tous écolo-radicaux terroristes, si on arrive à convaincre les lobbyistes...
Je peux me permettre. Oui. Tout à l'heure, tu parlais d'Emmanuel Faber, Benoît, en disant que c'était une des personnes les plus charismatiques et les plus inspirantes en matière de grands patrons du multinational au sujet de la consommation. J'ai été son lobbyiste, en fait. Et le lobbyiste, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que lobbyiste, c'est le bras armé d'un modèle économique. On est toujours le lobbyiste de quelque chose. Donc oui, il y a la convention des lobbyistes, parce que c'est des personnes qui défendent des intérêts d'une entreprise. Mais dans ces cas-là, le lobbyiste est juste un petit maillon d'une échelle plus large. Est-ce que je peux me permettre de poser une dernière question ? Là, tu disais, l'essentiel vraiment, c'est que ça puisse se connecter correctement avec ce qui est proposé. Quelles sont les pistes sur, par exemple, prenons le territoire de Marseille, sur le fait que les propositions de l'Assemblée citoyenne du futur puissent rentrer en synergie avec ce qui se fait déjà? Si on prend uniquement le territoire marseillais, il y a les 100 villes décarbonées, dont Marseille lauréate. Il y a le programme Marseille en grand du président de la République qui a été jusqu'à aujourd'hui sur le territoire marseillais, enfin territoire dans la ville de Marseille. Il y a les projets de la région, le plan climat de la métropole, la cité des transitions, toutes les propositions de toutes les associations, de toutes les entreprises, etc. Ça fait une espèce de bazar dans tous les sens et d'un coup, il va y avoir des propositions de l'Assemblée citoyenne du futur. Comment est-ce qu'on s'assure que celles-ci viennent s'agencer et permettre d'aller plus loin par rapport à l'existant pour qu'il n'y ait pas un moment une espèce de collision où on se dit bon, en fait, ça ne sert à rien ou c'est hors sujet.
Il faut y ait un échange, il faut y ait un dialogue entre toutes ces personnes, tous ces organismes là que tu citais durant la convention du futur. Il faut ce dialogue. Tu dois appeler tous les acteurs, tu dois faire participer tous les acteurs. Celui qui aura, entre guillemets, le dernier mot à la fin durant cette convention du futur, c'est les 111 participants. Voilà. C'est eux qui vont proposer, c'est eux qui vont avoir le dernier mot, qui vont avoir le choix. Mais au départ, tu dois écouter tous les acteurs. Il est primordial que tout à chacun donne son avis. Tu ne peux pas aller que dans un seul sens.
Est-ce que ce n'est pas une belle conclusion, ça ? D'appeler au dialogue ? Au dialogue, à l'écoute et vraiment à l'idée d'embrasser toutes les complexités de notre société pour pouvoir faire en sorte qu'on aille dans une direction commune.
Ouais. Ouais. On est bien.
Et puis, lisez la BD à portée de main pour comprendre tout ce qui s'est passé aussi. C'est un bel outil de vulgarisation pour la suite.
Tout à fait. Petit clin d'œil à Lucas Zuffic que nous avions reçu il y a 4 semaines. Eh bien, écoute, Benoît Baubry, merci beaucoup d'avoir merci témoigné ce soir. On espère que celles et ceux qui nous écoutent ont été touchés par le discours et qu'on se donne de l'énergie à la fin en disant qu'il faut qu'on dialogue et qu'on construise ensemble parce que, de toute façon, aujourd'hui, nous n'avons plus réellement le choix. Merci, Benoît.
Merci à vous.
Merci Gilliane, merci à Chloé qui est en régie et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même jour pour Écoforum. Bonne soirée.
Pour tes papiers.
Looking for help with your papers?
De Al-Khalid Ouazi, je peux papier.
Des cours de français?
French lesson?
Classes de français?
Zemane français?
À manger?
L'akl.
De manjare?
Khewa ma fure fe fan ya ba fi.